dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 25 septembre 2014. Vous suivez le Grand Dialogue qui parle ce soir du trafic de produits pharmaceutiques au Mali. Nous allons voir tout cela avec Moussa Gouro Dial, vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Madame Koulibaly Salimata Diarra, présidente de l'Association des consommateurs du Mali, participe à la marche qui se déroule actuellement à Bamako et nous espérons la voir dans ce studio d'ici la fin de cette émission. Nous aurons également Ibrahim Ag Assalé, responsable des renseignements à la douane malienne, qui est également en cours de route. Donc, nous allons commencer avec Moussa Gouro Dial, vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali.
Studio Tamani.
Il représente près de 30% des médicaments vendus en Afrique. L'industrie et le commerce des faux médicaments dégageraient en Afrique un chiffre d'affaires compris entre 10 à 15 milliards de dollars. Les pays anglophones comme le Nigeria, la Gambie, le Ghana semblent les plus touchés par la contagion, suivis de près par certains de leurs voisins comme immédiats comme le Mali. Alors Moussa Gouro Dial, vous êtes vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Pouvez-vous nous dire quel est l'ampleur de ce phénomène au Mali?
Merci et bonsoir, M. Quinza. Bonsoir aux auditeurs de la radio Tamani. Effectivement, le problème de la vente illicite des médicaments au Mali représente un véritable problème pour la santé publique. Et vous n'en doutez pas non plus également. Et surtout aussi un problème économique également, parce que ça a également des répercussions économiques. Peut-être que je ne pourrais pas vous dire ce que ça représente en termes économiques. Certainement, mes collègues ou mes confrères du syndicat, s'ils étaient là, ils auraient pu vous dire effectivement ce que cela a comme impact sur l'économie malienne. Mais d'ores et déjà, en termes de santé publique, cela pose énormément de problèmes.
Alors, d'où viennent ces médicaments?
Alors, donc ces médicaments nous avons deux sources. Il y a une source interne, c'est-à-dire donc ces médicaments sont approvisionnés à partir de l'intérieur. Donc souvent, il existe des structures qui vendent de façon illicite, effectivement, aux personnes qui n'en ont pas la capacité et qui n'ont pas la qualité de détenir ces médicaments. Et l'autre source également est extérieure. Et ça, je pense que vous le savez comme moi, que nous avons un pays qui est très vaste et donc il y a des frontières qui sont assez grandes et en conséquence qui sont poreuses aussi. Et donc voilà, l'essentiel également arrive à travers ces frontières.
Alors sur le marché, quel type de produits on voit le plus?
Alors, donc, les produits qui sont très souvent rencontrés, c'est il y a les antibiotiques, malheureusement, et il y a aussi les anti-inflammatoires et antalgiques. Donc, antibiotiques, comprenez là les médicaments qui tuent les infections et également les médicaments qui calment la douleur et puis éventuellement s'il y a une inflammation. Donc, ça, ce sont vraiment les médicaments qui sont très, très rencontrés. Et le paracétamol, ça fait partie de ça. Voilà.
Alors, pour un peu mesurer l'ampleur de ce phénomène et définir les causes, certains attribuent les causes à la pauvreté. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces personnes?
Oui, on va dire que la pauvreté est certainement une des raisons, mais ce n'est pas la seule raison, elle n'est pas suffisante. Mais c'est quand même une des composantes. Et si vous voulez, les causes sont vraiment multiples et elles nous reviennent de très loin aussi. Parce que quand nous regardons qu'il y avait déjà quelques années, les institutions financières qui aidaient les pays en voie de développement considéraient que la santé et l'éducation comme étant des facteurs de fardeau pour l'économie des pays. Et donc, cela a eu pour conséquence, c'est qu'à un moment donné, on investissait peu dans ce secteur. Alors est-ce qu'aujourd'hui, fort heureusement qu'aujourd'hui, qu'on reconnaît que la santé et l'éducation n'est plus des fardeaux, c'est plutôt des secteurs, des moteurs de développement. Et ça, c'est à saluer aujourd'hui quand ils ont changé de langage. Donc, cela a été une des raisons. Donc, ces institutions, effectivement, le département de la santé et l'éducation, donc, ont pris du coup. Et donc, il y a eu, cela a eu comme conséquence aussi, c'est qu'au niveau de nos structures hospitalières, il faut dire que également, selon ce qu'on a reçu comme information, donc il y a l'accueil, il faut le dire, il y a la qualité de traitement à l'époque. Et également, au niveau même des pharmacies aussi, il faut dire, c'est pour cela que nous ne cessons jamais de rappeler aux officines, aux pharmaciens, que nous devons revaloriser notre fonction, nous devons être à la hauteur pour jouer pleinement notre fonction, pour que la population puisse nous faire confiance. Donc, il y avait ces raisons. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'entendais à travers votre journal que les femmes de Koutiala se sont plaintes au centre de santé de référence en évoquant tout à l'heure les mêmes raisons. Donc, ceci a amené quand même les gens à se détourner un peu. Et évidemment, et vous avez parlé de la pauvreté. La pauvreté a été un facteur très essentiel aussi. Et donc, également l'information. Parce que les gens ne disposent pas également de la bonne information, confondant les médicaments qui sont obtenus dans la rue, pensant que c'est la même qualité que les médicaments qui sont détenus dans nos centres de santé ou dans les officines. Voilà.
Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui à ce que ces médicaments contrefaits qui ne sont pas fabriqués avec les normes qu'il faut se retrouvent dans les pharmacies? Est-ce qu'il y a un risque pour cela aujourd'hui au Mali?
Oui, le risque est là. On ne peut pas dire que le risque est zéro. Effectivement, le risque est là, mais fort heureusement, si nous respectons le schéma directeur d'approvisionnement, parce que vous savez, il y a ce que nous appelons la DPM, qui est la direction de la pharmacie et du médicament, donc qui organise la politique de santé concernant les médicaments. Et ils ont dégagé un schéma directeur d'approvisionnement. Et tant que ce schéma de directeur d'approvisionnement est respecté, en principe, nous ne devrons pas avoir ce problème. Je dis bien en principe quand le schéma directeur est respecté. Donc le problème ne devrait pas exister. Mais en tout état de cause, les risques existent quand même. Et je vais vous dire aussi, toujours dans le cadre de protéger la santé publique, les États mettent toute une armada de textes qui entourent la fabrication, depuis la production du médicament jusqu'à sa dispensation, et même voire jusqu'à sa destruction. Donc c'est pour vous dire que tout ça, c'est réglementé. Et en principe, sauf des trucs, ça ne devrait pas se retrouver en officine.
Alors, je rappelle que nous sommes en train de parler des médicaments contrefaits, de la fraude des médicaments contrefaits, les pharmacies par terre, comme on les appelle d'habitude ici au Mali. Il y a la fraude. Est-ce que vous avez mis des mécanismes en place à l'ordre des pharmaciens, vous qui êtes Moussa Gourou, vous qui êtes vice-président de l'ordre des pharmaciens du Mali? Est-ce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qui interdisent ou bien des garde-fous de la part de l'ordre pour que les officines ne puissent pas s'approvisionner sur ce marché noir?
Sur le marché. Oui, d'accord. Je pense d'abord que les officines n'y ont pas intérêt. Et si vous avez des professionnels, ils n'ont pas intérêt parce que dans la mesure où il existe aujourd'hui des structures et dédié à cela. Nous avons des grossistes qui sont formalisés et qui existent, donc à travers lesquels nous avons nos livraisons tous les jours. Et ça, c'est un premier élément. Et donc, le deuxième élément est que par rapport à l'approvisionnement de ces médicaments sur le truc, l'ordre des pharmaciens y veille. L'ordre des pharmaciens y veille. Comment? Éventuellement en sanctionnant si jamais il y avait des brebis galeuses parmi nos rangs, ce qui peut être possible, mais si jamais il y en a, l'ordre des pharmaciens est là pour le respect de la santé publique, pour la protection de la population. Je dois le rappeler encore parce que c'est vrai, beaucoup de gens pensent que l'ordre des pharmaciens, c'est plutôt pour l'intérêt des pharmaciens. Non, loin de là. Nous sommes plutôt réglementaires. Nous agissons conformément aux textes réglementaires. Et les textes disent clairement que c'est le respect de la santé publique, c'est la protection de la population. Voilà ce qu'est le rôle de l'ordre des pharmaciens.
Alors, qu'est-ce que ces pharmacies, ces officines-là, risquent comme sanctions?
Alors, donc, les sanctions, ça va de l'avertissement, des blâmes, et jusqu'à la radiation. Elle peut être même définitive. Voilà, donc ça, c'est fonction de la gravité de ce qui est constaté.
Alors, voilà. cette radiation, elle équivaut à quoi? Est-ce que l'officine est fermée? Est-ce que dans quel délai, quel délai est imparti à la personne victime d'exercer sa fonction?
Bon, alors, donc, quand on va arriver jusqu'à ce niveau, je crois d'abord, pour arriver à ce niveau, nous avons un magistrat qui va siéger avec une commission. Donc, c'est à partir de là qu'ils vont déterminer la gravité des faits. Et en fonction de la gravité des faits, les sanctions sont prononcées. Et si les sanctions sont prononcées et que même il y a eu des recours et que malgré tout ça, les sanctions sont maintenues, donc...
Allez-y.
En ce moment, je disais, donc en fonction des sanctions, ça peut être une suspension où le pharmacien peut ne pas exercer dans son officine, mais on le fait remplacer par un autre pharmacien. Et dans tous les cas, il s'agira de lui de qu'il soit suspendu de façon temporaire. Ça peut aller à 3 mois et même au-delà. Et je vous ai dit, même jusqu'à vie, radiation à vie, radiation, en fonction de la gravité
de la situation.
Il peut être interdit à vie d'exercer la profession de pharmacien au Mali.
D'accord. Alors, je signale juste l'arrivée de Ibrahim Ag Assalé, responsable des renseignements à la douane. C'est bien ça? Monsieur Assali,
oui, c'est ça.
Bienvenue à ce débat. Vous le prenez au vol. Alors, nous parlions du premier volet, l'ampleur des dégâts. Aujourd'hui, quelle estimation est-ce que la douane peut nous donner par rapport à l'ampleur de ce phénomène qu'est le trafic des médicaments contrefaits?
Ok, merci. Le trafic des médicaments contrefaits, c'est-à-dire la fraude et la contrebande des médicaments, au même titre que le trafic de drogue et de psychotropes, a un impact significatif sur la santé des populations, la société, la stabilité de l'État. Et donc, nous avons quelques statistiques par rapport aux saisies effectuées. Et d'abord, avant de parler de ces statistiques, je peux présenter rapidement les missions de l'administration des douanes, qui n'est pas seulement une mission... qui ne sont pas seulement des missions fiscales. L'administration des douanes, en plus de la mission fiscale, a une mission économique. Ça, c'est pour la protection de l'économie. Et ensuite, il y a une mission de sécurité. Et c'est dans cette mission que se situe la lutte contre la fraude et la contrebande des produits contrefaisants ou de contrebande prohibée. Donc, nous avons quelques statistiques. De 2011 jusqu'au premier semestre 2014, nous avons saisi 31.881.684 unités de produits, c'est-à-dire des comprimés en flacons, en gélules, autres, pour une valeur de plus de 809 millions. Donc, voilà pour vous dire que la fraude sur les produits a un impact sur la sécurité et en même temps sur l'économie.
D'accord. Alors, nous allons observer juste quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie du débat qui sera consacrée aujourd'hui à l'état de la lutte contre ce trafic justement de médicaments contrefaits.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, les réseaux sociaux, en visitant par exemple notre site web www.studiotamani.org en un seul mot ou sur notre page Facebook Studio Tamani et vous aurez toutes nos productions du matin jusqu'au soir, y compris ce grand dialogue que vous écoutez. Alors, nous avons comme invité aujourd'hui pour nous parler de l'état de la lutte contre les produits pharmaceutiques au Mali, Moussa Gouro Dial, vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali, et Ibrahim Aga Salé, responsable des renseignements à la douane. Alors, cette deuxième partie, je l'ai dit, sera consacrée à l'état de la lutte contre ce trafic au Mali. Le trafic de médicaments, vous l'avez dit, est considéré aujourd'hui comme le trafic de drogue, monsieur Assalé. Qu'est-ce qu'on risque une fois arrêté en possession de produits pharmaceutiques?
Merci. D'abord, avant de parler de ça, vous avez parlé de dispositifs. J'ai parlé de notre dispositif de lutte. Et nous avons un dispositif de sécurité, c'est-à-dire aux frontières. Nous avons un certain nombre de bureaux aux frontières. Ça, c'est la première ligne. Et nous avons également un dispositif en deuxième ligne. Ça, c'est assuré par les brigades mobiles d'intervention qui balaient les espaces entre les différents bureaux. Donc, un trafiquant ou un contrebandier qu'on prend en possession des produits pharmaceutiques est sanctionné conformément aux dispositions du code des douanes. C'est-à-dire, c'est la confiscation des produits. Et ensuite, il est mis à la disposition du procureur. Donc voilà ce qui risque.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de savoir où est-ce qu'on vend ces produits pharmaceutiques à Bamako et un peu partout au Mali? Moussa Gouro Dial, vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali, on parle beaucoup de Dabanani. Est-ce que c'est le seul endroit?
Je me dis que c'est plutôt, est-ce qu'on ne vend pas ça partout? C'est ce que j'allais plutôt me dire, parce que c'est que sûr, il suffit même de sortir ici, on va peut-être voir dans la rue quelqu'un avec son étalage ou avec tout à fait. Donc je pense qu'on en trouve un peu partout maintenant. Avant, encore il y avait une vingtaine d'années, c'était des choses à la chauvette, mais maintenant c'est vraiment
une véritable industrie.
Voilà, c'est au vu aussi de tout le monde.
Alors, qu'est-ce que la douane fait dans ce domaine-là? Est-ce que vous menez des activités de ratissage dans des zones comme Dabanani, en plein cœur du marché de Bamako, monsieur Assalé?
La douane ne s'occupe pas de ce qui se trouve à l'intérieur. Ça, c'est le travail de la direction du commerce et de la concurrence. Donc, la douane s'occupe de la surveillance, comme je l'ai dit, aux frontières. Et la surveillance de deuxième ligne, les brigades mobiles qui sillonnent la ville. S'ils rencontrent quelqu'un, une cargaison qui transporte des produits pharmaceutiques, on l'arrête. Mais en ce qui concerne ceux qui sont devant leurs étalages en ville, à Dabanani, ça c'est le travail de la police et des affaires économiques.
Est-ce que l'efficacité de l'action de la douane n'est pas en cause quand on sait que ces produits échappent aux différents points de contrôle à l'entrée des villes?
Bon, merci. Ça, c'est dû à la porosité des frontières. Le Mali fait 1 231 338 km². Et nous avons 7000 km de frontières à surveiller. Et compte tenu de cette étendue avec 7 pays voisins, tels que le Sénégal à l'ouest, et le Niger à l'est, la Mauritanie et l'Algérie au nord, et aussi nous avons la Guinée, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Compte tenu de cette étendue et de nos moyens limités, nous ne pouvons pas cerner l'ensemble du territoire douanier. Et compte tenu également, nous avons des besoins en matériel et
quels sont les moyens dont dispose la douane humaine, justement, pour lutter contre ce trafic?
La douane... l'effectif total de la douane, c'est 1943 agents.
Et parmi pour tout le Mali.
Pour tout le Mali. Parmi ces 1943, il y a à peu près il y a 384 agents répartis dans 48 bureaux frontières. Ça, c'est le dispositif de première ligne. Et nous avons 352 agents en deuxième ligne pour les brigades mobiles d'intervention. Il faudra quand même noter également que lors de la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue, la douane a été vraiment pillée, saccagée. Tous les véhicules dont dispose la douane ont été enlevés par les gens qui ont cassé la direction. Et ensuite, il y a également un besoin en renforcement des capacités dans ce domaine.
Alors, Monsieur Diallo Gouro Diallo, je dis Diallo Moussa Gouro Diallo, vous êtes vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Est-ce que ce que vous venez d'entendre de la part de la douane est rassurant?
Oui. Et heureusement qu'il y a encore la douane et qu'elle intervient efficacement aussi, même si nous savons qu'il y a quand même des difficultés, parce que je pense que tantôt avant lui, j'avais parlé de l'immensité de nos frontières. Et effectivement qu'il faille doter la douane de beaucoup de moyens. Mais ce qu'il y a, il y a encore à l'intérieur, on voit déjà qu'il y a des choses qui sont là. Donc je pense qu'il y a lieu de faire, d'avancer. Pour nous, il faut d'abord qu'il y ait une réelle volonté politique. Nous savons que déjà il y a eu le décret 02075 PRM du 15 février, je crois, 2002, donc, qui crée la commission nationale de la lutte contre la vente illicite.
Qu'est-ce qu'elle fait? Qui ne marche pas comme il faut.
Bah, qui est là, et voilà. Donc, il y a ça. Et nous savons également que le secteur pharmaceutique, le secteur de la santé, de façon générale, c'est le secteur le mieux légiféré. Donc, il y a vraiment des textes, il y a tout un tas d'armada de textes qui permettent effectivement aux autorités, au pouvoir public d'intervenir. Parce qu'il y a déjà un cadre législatif réglementaire qui existe. Nous avons connu il y a quelques années aussi la convention Medicrim que nous attendons qu'elle soit ratifiée, signée par notre pays. Il a comparé le phénomène au phénomène de la vente de drogue. Hein. Aujourd'hui, est-ce que ça n'a même pas tendance à dépasser ça? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la drogue, on a tellement travaillé et tous les anciens barons qui étaient à ce niveau se sont maintenant reconvertis vers du côté des médicaments. Et donc aujourd'hui, nous pensons aussi qu'il va falloir effectivement, surtout nous, au niveau de nos textes également, vous voyez, nous dans notre... Oui, parce qu'on parle de à peu près de 500 000 francs d'amende.
Vous pensez que ce n'est pas suffisant?
Oui, c'est très peu.
Est-ce qu'il y a déjà eu des cas d'officines qui ont été victimes ou bien qui se sont laissés tenter par ce genre de trafic et qui s'approvisionnent sur le marché noir?
Sur le marché noir. Bon, alors donc, on a souvent entendu des échos, les gens disent, mais sans qu'on ait effectivement eu de façon très formelle les preuves. Sinon, je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, avec l'existence des structures qui sont bien formalisées, dont les pharmaciens même sont partie prenante de ces structures, aujourd'hui, franchement, ça n'offre pas du tout, en tout cas pour quelqu'un qui réfléchit tant soit peu, d'aller vers d'autres secteurs, d'autres directions que d'aller dans le secteur formel, dans le schéma directeur d'approvisionnement. Donc, je disais tantôt que par rapport à la loi, il va falloir vraiment rendre ça criminel. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas traité comme tel. Donc, quelqu'un qui fait des affaires de centaines de millions, vous le prenez pour 500 000 francs. Bon, demain, il va reprendre là. Pareil, parce qu'il n'a que 500 000 francs à payer. Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir revoir un peu les textes aussi par rapport à ça.
D'accord. Alors, Ibrahim Aga Assalé, vous êtes responsable des renseignements à la douane. Quel genre d'individu s'adonne à ce trafic au Mali? Est-ce que c'est des commerçants, uniquement des commerçants, ou bien c'est des professionnels?
Bon, les genres d'individus que nous avons rencontrés, la plupart, c'est des commerçants. Mais également, il y a des gens qui sont tentés par
le gain facile,
étant donné que pour donner la possibilité à chaque citoyen de disposer des soins, au niveau de l'administration des douanes, le tarif des douanes est très bas pour les médicaments. Et maintenant, il y a des gens qui profitent de cela pour le gain facile. Il y a des commerçants, il peut y avoir également peut-être des propriétaires d'officines également. Mais là, peut-être, ils ne savent pas, certains ne savent pas la différence entre les produits les faux médicaments contrefaisants et les vrais produits. Mais quand même que cela ne tienne, toute importation de médicaments est soumise à l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Et la douane, dans le cadre de l'appui à la direction de la pharmacie et des médicaments, ne met jamais des médicaments à la consommation sans exiger ce document, l'autorisation de mise sur le marché. Mais à notre grande surprise, on peut rencontrer des produits de ce genre dans certaines officines. Et là, bon, c'est peut-être que c'est, je sais pas, c'est dit à une faille quelque part, c'est pas dans la chaîne. Quoi.
Alors, selon les estimations, selon les professionnels qui sont beaucoup impliqués dans ce domaine, les pays anglophones comme le Nigeria, la Gambie, le Ghana semblent les plus touchés par ce phénomène et les pays voisins comme le Mali. Par où transite la cargaison qui arrive au Mali, Monsieur Assalé?
Les pays comme le Nigeria, c'est des pays où il y a des industries, bon, pas dire des industries, mais il y a des structures qui fabriquent des médicaments. Et les produits de contrebande que nous avons rencontrés nous viennent principalement des pays voisins, notamment de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Sénégal. Donc, dans notre base de données, ce sont ces produits que nous avons recensés. Et aussi, dans le cadre de la coopération, nous avons des rapports avec tous ces pays, puisque nous sommes dans des réseaux de lutte au niveau international contre la criminalité pharmaceutique. Même présentement, nous sommes dans une opération qu'on appelle Health and Security Network. Et là, on l'alimente. Et c'est dans les échanges d'informations qu'il y a un responsable de l'Organisation mondiale de la santé qui m'avait demandé de prendre contact avec un responsable de la direction de la pharmacie et des médicaments pour recenser des renseignements qui pourront vraiment
être utiles
dans l'orientation de la provenance des produits, et les fabricants et autres.
Alors, est-ce que dans des pays comme la Guinée, par exemple, l'ordre des pharmaciens joue pleinement son rôle, Moussa Gourodial, vice-président de l'ordre des pharmaciens du Mali?
Oui, d'accord, merci. Donc, permettez-moi juste de revenir en arrière pour appuyer un peu ce que il a dit par rapport effectivement aux tarifs douaniers appliqués sur les médicaments. Et on doit dire, donc, en fait, aussi, il y a eu des efforts qui sont faits en direction des médicaments pour que seulement on ne trouve pas une justification de dire que les médicaments sont chers ou que la pauvreté quand même les gens allaient vers ça. Et aujourd'hui, il a parlé de taux douanier. Aujourd'hui, il est presque
fini.
Vraiment, c'est un taux, on ne peut plus mieux. Alors, donc, peut-être qu'on peut toujours faire un effort. Alors, quand on regarde également le système de maillage des structures de santé au niveau du pays, regardez, vous voyez comment c'est créé les structures de santé, les CESCOM, par exemple, qui ça existe. Les médicaments, ils sont beaucoup moins chers au niveau des pharmacies.
Donc, tout est fait pour alléger. Le coût au niveau le plus bas.
Au niveau du consommateur, au niveau
des pharmacies. On va y venir, hein, ça,
d'accord.
Un volet sera consacré à cela.
Voilà.
Donc, le rôle aujourd'hui de l'ordre des pharmaciens dans ces pays comme la Guinée, par exemple, est-ce que vous pensez que l'ordre joue pleinement son rôle dans ces pays?
Oui. Et voilà, donc nous avons... On se retrouve tous les ans. D'ailleurs, je vous informe que le 16e Forum international pharmaceutique se tiendra au Mali au mois de juin, du 2 au 4 juin, je crois, 2015, si je ne m'abuse. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que, en fait, là, il y a tous les ordres pharmaceutiques francophones d'Afrique et d'Europe se retrouvent. On se retrouve pour discuter des vrais problèmes. Des questions de la profession, concernant la profession, les problèmes de santé publique. Donc, effectivement, nous sommes tout à fait au parfum
de ce qui se passe dans les
autres pays, et notamment ce qui se passe en Guinée, qui est un pays frontalier, un pays ami. Et nous savons qu'ils ont vraiment eu des présidents, ils ont eu vraiment des bureaux d'ordre qui ont été très opérationnels. Mais je vous ai dit qu'en dehors de tout ça, il y a une véritable volonté politique.
Est-ce que cette volonté politique existe en Guinée, par exemple?
Voilà, je ne sais pas, mais c'est très important partout. Mais ce que je peux vous dire, aujourd'hui, le Ghana est un pays modèle aujourd'hui. Il est cité comme pays modèle dans l'éradication de ce phénomène.
Et pourtant, ça existe.
Ça existait au Ghana, mais aujourd'hui, ils sont parvenus à éradiquer ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas impossible.
Avec beaucoup plus d'engagement.
Voilà, qu'on puisse le faire dans les autres pays.
D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause, juste 2 secondes, avant de poursuivre avec la troisième et dernière partie du débat.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de nous être fidèles. Cette émission parle aujourd'hui du marché des médicaments frauduleux. Cette troisième partie est consacrée aux conséquences de ce trafic. Nous avons deux invités, Moussa Gouro Dial, vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali, Ibrahim Ag Assalé, responsable des renseignements à la douane. Alors, cette troisième partie est consacrée aux conséquences. Quelles sont les conséquences économiques de ce trafic des médicaments contrefaits, Ibrahim Ag Assalé, vous qui êtes à la douane.
Okay, merci. Les conséquences de ce trafic, c'est qu'il y a un impact négatif sur l'économie. C'est-à-dire qu'il y a, ça peut provoquer la mévente des produits de nos officines, créant ainsi une concurrence déloyale, et ça peut entraîner également le chômage, parce que les officines étant victimes de concurrence déloyale, de mévente, peuvent licencier des individus. Et de là, il y a un impact également sur les produits nationaux bruts, parce que c'est le travail généré, les revenus au niveau des différentes les sociétés, c'est-à-dire les officines et au niveau de l'ensemble des entreprises.
Alors, en termes de chiffres, à combien estime-t-on le manque à gagner par rapport à ce trafic au Mali?
Il n'y a pas de manque à gagner pour l'État parce que les produits sont
prohibés.
Il y a une prohibition relative parce qu'il faut une autorisation du ministère de la Santé et du ministère de l'Élevage pour les produits vétérinaires. Donc, ils sont exclusivement destinés à la destruction. Donc, il n'y a pas un impact en termes de recettes fiscales. Seulement, il y a des sanctions prévues par la loi.
Mais à partir du moment, excusez-moi de vous interrompre, à partir du moment où la population doit débourser de l'argent pour ces produits prohibés, peut-on estimer le coût?
Le coût.
Le montant.
Oui, moi j'ai donné une valeur, c'est-à-dire que tous les produits que nous saisissons, nous les évaluons pour déterminer les pénalités fixées par la loi. La loi fixe à peu près le triple de la valeur des produits saisis. Ça, c'est pour dissuader avec un emprisonnement, dissuader les trafiquants.
Les contrevenants.
C'est-à-dire que les véhicules transportants, ils sont saisis. Et ce sont ceux-ci qui sont vendus et la pénalité est appliquée sur la valeur de ces produits.
D'accord.
Mais les produits pharmaceutiques en tant que tels, ils sont destinés à la destruction. Donc, l'État
n'y
perçoit...
Il n'y a pas lieu de faire une estimation quelconque.
Il n'y a pas de pertes en matière de recettes, mais il y a des pertes en matière, comme je l'ai dit, en matière de l'économie et de la santé des populations. L'État, d'ailleurs, a beaucoup plus à gagner parce que les médicaments ou les psychotropes qui sont saisis peuvent occasionner des morts de beaucoup d'individus si on ne les a pas saisis. Donc, c'est un gain qu'on a en les saisissant.
D'accord. Alors, Moussa Gouro Dial, vous êtes vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Économiquement, quel est l'impact du trafic des médicaments frauduleux au Mali?
Bon, donc, économiquement, vous allez m'amener sur un terrain sur lequel moi je
par rapport aux officines, par exemple,
oui,
quel est l'impact?
J'ai dit que nous, vraiment,
il y a des licenciements quand il y a mes ventes.
Nous sommes axés sur la protection de la santé publique. Ça, c'est le rôle de l'ordre. Et donc maintenant, peut-être l'autre aspect aurait pu être traité le syndicat. Si un de mes confrères du syndicat était là, vous auriez pu vous donner tout à l'heure l'impact que cela, ce que ça pouvait impacter en termes effectivement de chiffres que vous dites au niveau des officines, que ce soit au niveau des grossistes. Parce que je vais vous rappeler simplement que nous avons des grossistes ici qui payent au trésor malien entre 1,5 à 2 milliards par an. C'est pas quand même une petite affaire et qui emploie beaucoup de gens. Et donc peut-être que lui, il aurait pu vous dire sur l'ensemble de ce que fait les officines, les grossistes et tout, et puis effectivement rapporter par rapport à ça, voir que ce qui est sûr, à coup sûr, cela impacte négativement l'économie. Mais vraiment, c'est pas nous, ceci n'est pas tellement notre. Nous, l'aspect qui nous intéresse beaucoup, c'est la santé publique.
Voilà. Alors justement, l'impact sur la santé, c'est le troisième volet, enfin la dernière partie donc de ce débat, l'impact sur la santé. Est-ce que on peut également estimer ou bien définir un impact quelconque sur la santé aujourd'hui,
oui,
sur tout le territoire?
Oui, aujourd'hui on peut tout à fait donner qu'il y a des impacts sur la santé des personnes, donc la santé publique. Et dès lors que des morts d'hommes ont été constatées, il l'a dit, donc l'État, effectivement, l'État gagne sur ce plan, parce qu'au moins, ça va éviter les morts d'hommes. Et donc, ceci. Et aussi, il y a eu des cas où, peut-être pas des morts d'hommes, ou des cas où les personnes se sont retrouvées avec des problèmes d'insuffisance rénale, des problèmes d'insuffisance cardiaque. Et Dieu seul sait, d'ici 10 ans, 20 ans, quelle nouvelle de pathologie qui va sortir? Et peut-être tout cela est lié à ces médicaments. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de tout documenter pour vraiment pouvoir aujourd'hui présenter réellement la situation d'impact sur le problème de la santé publique.
Alors, la douane veille également à la préservation de la santé des populations. Qu'est-ce que cela représente aux yeux de la douane, cette préservation de la santé de la population?
Bon, la préservation de la santé des populations, comme je l'ai dit, c'est parmi les missions régaliennes de l'administration des douanes. L'administration des douanes a pour troisième mission la protection de la société, du consommateur, pas seulement en matière de consommation de produits pharmaceutiques, mais également les produits alimentaires. Donc tout ce qui rentre, parce qu'elle a un dispositif aux frontières, à toutes les frontières, et maintenant elle veille également à tous les cas de criminalité, notamment la criminalité pharmaceutique. Maintenant, la santé des populations, et comme il vient de le dire, avec les morts d'hommes constatées ou les impacts à moyen ou long terme, les pathologies qui vont se développer. Et donc là, la douane joue un rôle très important dans la sécurisation de la santé des populations.
Alors, Moussa Gouro Dial, vous êtes vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. La seule usine qui fabrique à ce jour au Mali les produits pharmaceutiques, c'est l'usine malienne de produits pharmaceutiques. Elle ne tourne plus à plein régime. Est-ce que le Mali a les moyens aujourd'hui d'approvisionner suffisamment le marché des produits pharmaceutiques?
Effectivement, l'usine ne tourne pas à plein régime. On n'arrive pas à produire suffisamment pour le pays.
Le marché.
Non, ça. Voilà. Donc, mais c'est là aussi, ça a été un combat pour le. Parce que ce qui se passe, voilà. Donc, peut-être c'est là où aussi, avec mon ami.
Monsieur Assalé de la douane.
Monsieur Assalé, voilà, donc peut-être c'est là où on va un peu se séparer. Parce que lui, venant du ministère des Finances et moi du ministère de la Santé et surtout de l'ordre des pharmaciens. Bon, donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, au niveau de cette usine, il y a des problèmes. Et les finances sont intéressées. Le ministère des Finances est intéressé par des finances, par l'argent. Et nous pensons aussi que c'est un problème de souveraineté d'avoir une usine qui tourne.
Encore.
Et que. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a des vrais problèmes à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, l'usine, l'UMPP, C'est pas tout à fait.
C'est pratiquement à l'arrêt. Hein.
Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font vraiment de leur mieux. Les hommes et les femmes qui tiennent cette usine travaillent d'arrache-pied. Ils font beaucoup de leur mieux. Mais peut-être que les ressources nécessaires ne sont pas... Ils n'ont pas encore peut-être tous les moyens qu'il le fallait. Sinon, vraiment,
alors, qu'est-ce qu'on...
il faut même saluer ces hommes et les femmes qui, jusqu'à présent, tiennent, grâce à leur effort, à leur engagement, l'usine est encore ouverte. Sinon, normalement,
alors, qu'est-ce qu'on y fabrique jusqu'à présent?
Alors, donc, on y fabrique quelques médicaments essentiels, quelques items, je ne pourrais pas peut-être tout vous citer ici, mais qui sont déjà bien prisés par la population, parce que c'est des médicaments qui sont bien acceptés et bien connus.
Efficace,
par,
également. Voilà,
efficace, oui, tout à fait, très efficace.
Alors, et pensez-vous que, vu ces difficultés du pays à pouvoir approvisionner suffisamment le marché, que ces populations-là, les populations maliennes, puissent se passer aujourd'hui de ces médicaments par terre?
Oui, donc je disais que...
malgré les efforts de la douane, malgré les efforts des pharmaciens.
Oui, qui a été fait et constaté. Et donc, c'est beaucoup plus. Donc, aujourd'hui, moi, nous pensons que c'est vraiment un problème d'information également. Il y a également, et surtout ça, parce que quand on essaie, puisque justement, il y a une étude qui a été faite en comparaison entre les prix des médicaments achetés dans la rue et des médicaments achetés dans la pharmacie. En réalité, si on compare au comprimé prix, on se rend compte qu'à la pharmacie, c'est moins cher. Mais parce qu'à un moment donné, les gens avaient la possibilité d'acheter un comprimé. Et donc, ils réalisent comme ça. Et alors que peut-être
au lieu
que,
d'acheter la boîte,
voilà,
on peut
alors
acheter...
que le conditionnement existe en plaquette ou en boîte dans l'officine. Voilà. Et donc, quand on a fait cette étude, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas moins cher comme ils le pensaient. Et puis, dès lors que les médicaments génériques ont été mis en place, des génériques de qualité détenus par un pharmacien, donc à moindre coût. Je vous ai parlé tantôt de Sescom et je vais vous parler aussi depuis une année ou deux ans, je ne sais pas, ça existe, il y a l'AMO qui existe maintenant, l'assurance maladie. On sait que là aussi, l'absence de cette structure, également dans le temps, avait été également une des raisons des personnes de se retourner vers ce marché. Mais qu'aujourd'hui, cette structure existe, l'assurance maladie obligatoire, qui prend en charge 70% des frais médicaux. Donc, je pense que...
L'AMO qui reste un système à parfaire également.
Voilà, à parfaire. J'allais dire que donc, aujourd'hui, il reste encore à faire élargir cet AMO-là, effectivement, vers toutes les personnes
la
couverture soit totale et que les gens arrêtent d'aller vers l'autre secteur où ils croient gagner. En réalité, non seulement ils perdent de l'argent, mais également leur santé.
Dégrade leur santé également. Voilà. Alors, un dernier mot peut-être de la part de la douane. Est-ce que, selon vous, M. Assalé, Ibrahim Aga Assalé, responsable des renseignements à la douane, est-ce que vous pensez que la communication a un rôle central pour lutter efficacement contre les médicaments contrefaits?
Oui, la communication est très importante. Et c'est ainsi que je demande... Je souhaite qu'on renforce l'échange d'informations, la plateforme qui existe déjà entre la direction de la pharmacie et de l'ordre et la douane pour échanger. Parce que pour aider l'ordre dans le cadre de la lutte contre ces fléaux, il faudra qu'on nous donne les informations nécessaires. Et là, et j'informe également l'ordre que dans le cadre de la facilitation, nous avons mis en place une direction chargée de la facilitation et du partenariat au niveau de la Direction générale des douanes.
Merci beaucoup, M. Assalé. Ce débat s'achève. Malheureusement, nous n'avons plus de temps à vous consacrer. Nous sommes donc au terme de ce débat. Un grand merci à vous, à nos deux invités, Ibrahim Aga Assalé, responsable des renseignements à la douane, Moussa Gouro Dial, vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Je rappelle que nous parlions du marché des médicaments contrefaits au Mali. Nous avons vu trois axes, l'ampleur du dégât, les conséquences du trafic et l'état de la lutte contre ce trafic justement au Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Nouhoum Diré était à la technique. Vous retrouvez Souleymane Keza Sidibé demain pour un autre débat. Et quant à moi, je vous retrouve lundi si tout va bien.
Le
grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mounde.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.